Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est le débat de midi. Et aujourd'hui j'ai sorti mon maillot, pas de bain non, hein, j'attends un petit peu pour la plage. Mon maillot bleu aux deux étoiles, celui de l'équipe de France de football, éliminé de l'Euro la semaine dernière, certes, mais ça ne nous empêche pas de rester dans l'ambiance et de suivre encore la compétition de près avec la finale dimanche entre l'Angleterre et l'Italie. Enfin, pour ceux qui s'y intéressent, parce qu'un collègue dont je ne citerai pas le nom me disait le jour du premier match des Bleus, ah bon, il y a l'Euro, faisant lever la tête et sourire tout le bureau qui s'est demandé sur quelle planète il pouvait bien habiter. Comme si passer à côté d'un tel événement était impossible, voire honteux. Le foot est le sport le plus populaire au monde et que ce soit au Brésil, en Angleterre ou chez nous en France, depuis les 1 et 2 et 3-0 au Mondial 98, il semble aujourd'hui être une culture au-delà du sport. A-t-on le droit donc de ne pas aimer le football ? Juste parce que des mecs qui courent après un ballon, c'est pas notre truc ? Ou plus profondément parce que les sommes d'argent astronomiques, le racisme, l'homophobie viennent contredire les valeurs de solidarité, d'égalité et de fraternité qu'ils prônent ? Et la ferveur populaire, d'où vient-elle? À quoi nous renvoie-t-elle? Pourquoi le foot et les grandes compétitions en particulier? Loin de gâcher la fête, on va plonger dans le monde du ballon rond. J'aime pas le foot, c'est grave. Coup d'envoi, on est ensemble jusqu'à 13h.
Camille Crenier, le débat de midi sur France Inter.
On est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est vous.
Voilà, sans transition, football.
3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Bah... Quel pied, ah quel pied, oh putain.
France bleu, blanc, rouge et black, blanc, beurre. France tricolore, multicolore.
Tout ça fini.
C'est de la pure folie, je les connais pas, tout le monde sait, tout le monde il est beau.
Force de jouer en Ligue 1, Tatane a pris les automatismes de la Ligue 1. Frappe ratée, contrôle raté, passe ratée.
C'est bien
Alors,
ça.
Qui a Mbappé face à Vida.
Oh oh
le foot, le foot, le foot, le foot. La France est foutue.
Voilà, c'est fini, l'équipe de France est sortie. Les... Oui, c'est fini.
C'est sans doute qu'on méritait pas plus. C'est le foot.
Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, après l'élimination face à la Suisse lundi de la semaine dernière. Ça va, vous êtes remis, Fabien Bonnel, bonjour.
Bonjour.
Ça va mieux ?
Difficilement, j'ai mis 24 heures au moins à m'en remettre, depuis j'ai relativisé.
Bon, Fabien Bonnel, vous êtes porte-parole des Irrésistibles Français. C'est une association de supporters qui a participé à tous les matchs des Bleus depuis 2006. C'est vous qui avez le mégaphone et mettez l'ambiance dans les tribunes,
Tout
c'est ça
fait.
Est-ce que
Exactement.
Vous pouvez nous faire une petite démo pour commencer?
Rapidement, du nord de la France, au rivage de Provence.
Imaginez, là on est 10 000
Quelle que soit nos couleurs, le club de notre cœur, une passion nous unit, chanter pour notre pays. Sans rien, jamais rien lâcher, en bleu, blanc, rouge, allez.
Et là, tout le monde chante avec
vous. Et là, tout le monde chante, allez, allez, allez.
Elle ne se situe pas dans les tribunes, mais sur le terrain. Véronica Noceda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes joueuse de l'équipe des Dégommeuses. C'est une association de foot qui lutte, vous pouvez nous dire contre quoi?
Bah, qui lutte contre le sexisme, l'homophobie, la lesbophobie, toutes les discriminations dans le foot et par le foot.
Et bonjour Marion Fontaine.
Bonjour.
Historienne des mouvements ouvriers à l'Université d'Avignon, autrice entre autres de ce livre « Le Racing Club de Lens et les Gueules Noires » paru aux Indes Savantes. Et Pierre-Louis Baz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien journaliste à Europe 1. Vous avez couvert combien de Coupes du Monde et d'Euro, vous?
Quatre.
Lesquelles?
Écoutez, Coupe du Monde aux États-Unis, Coupe du Monde en Italie en 90, Coupe du Monde en France, Jeux Olympiques à Barcelone, Jeux Olympiques d'hiver, beaucoup d'euros.
Et vous êtes écrivain, auteur de Gagner à en mourir, paru chez Robert Laffont. On salue aussi la FFF et la LFP, hein, la Fédération Française et la Ligue Professionnelle de Football, dont tous les responsables, quels qu'ils soient, avaient malheureusement piscine aujourd'hui. Marion Fontaine, pourquoi cette ferveur, cette liesse pour le football et pas un autre sport, hein?
Peut-être parce que le football, c'est, enfin, c'est ce qu'il faut souligner, c'est que cette ferveur n'est pas un phénomène naturel. C'est-à-dire que pendant longtemps, notamment en France, la ferveur pour le football s'est trouvée en concurrence avec d'autres types de ferveurs. Par exemple, pour une compétition qui a lieu exactement aussi en ce moment, c'est-à-dire pour le Tour de France. C'est-à-dire que la ferveur pour le football n'est pas, s'est imposée peu à peu historiquement. Elle a commencé à se développer dans l'entre-deux-guerres. Elle s'est amplifiée dans les années 50-60. Et je pense que pour finir, cette domination de la ferveur footballistique en France, elle est peut-être, enfin, dans son côté massif, elle est au fond assez récente. C'est véritablement 1998 qui a, et la victoire, parce que la victoire, ça aide beaucoup quand même pour construire une ferveur, qui a construit cette ferveur footballistique omniprésente, qui jusqu'alors était beaucoup plus partagée avec d'autres sports, d'autres activités.
C'est ça, 98, Pierre-Louis Bas, ça a été un vrai déclencheur de cette passion football.
Vous me pardonnerez de tempérer un peu les... 98, c'est une formidable illusion. Formidable parce qu'une Coupe du Monde qui est gagnée par l'équipe de France, bien évidemment, ouais. C'est magnifique. Mais c'est une illusion parce que brusquement, au nom de la victoire, d'abord, il y a une captation de l'industrie du foot et du point de vue économique, telle que 4 ans plus tard, on inscrit la 2e étoile sur le maillot, sur les publicités d'Adidas, ce qui est une honte absolue, pathétique, parce qu'on inscrit une 2e étoile avant même que la compétition démarre. Et résultat, on dégage du Japon et de la Corée rapidement. Et puis, l'autre phénomène, c'est que c'est une illusion sociétale. Je voudrais quand même vous rappeler, vous êtes très très jeune, vous étiez à peine né, mais moi je rentre le soir après avoir commenté la finale avec Sacco.
Et en 98, j'étais 80... pas à peine né. Mais
non,
pas
je plaisante. Je peux plaisanter. Enfin, en tout cas, c'est un temps déjà, c'est il y a 20 ans. Mm-hmm. Bon. Et il y a tout le monde est dans la rue, enfin 1 million de personnes, sauf que les questions qui touchent à la culture et à la ségrégation sont toujours là en France. Et on entend des commentateurs, y compris certains philosophes, de nous dire que la croissance va repartir. Donc ça a été une formidable victoire et ça a été un marqueur terrible pour la société.
Mais la joie populaire, si je reste sur ce moment de la victoire de 98, ça n'est pas une illusion. Il y avait les rues étaient pleines de monde, des klaxons dans tous les sens, des gens qui se font des câlins, qui se connaissent pas.
C'était une belle illusion, mais de passage.
Fabien Bonnel.
Et partout en France, moi je l'ai vécu dans un petit village de l'Aisne, cette finale de la Coupe du Monde.
À partir des demi-finales, pas avant.
Totalement, mais sur beaucoup de compétitions, c'était comme ça. Sur 2018, c'était à peu près pareil. Ça s'est enflammé à partir du 8e quart de finale. Il n'y a que là, cette année, où on a vu plus de ferveur populaire dès le début de l'Euro, ce qu'on disait en introduction. Et tout le monde s'y est mis, mais je pense que la crise aussi a joué à ça et l'envie de tout le monde de sortir et de profiter de cet Euro pour faire la fête.
Ce que je voulais exprimer, pardon, il paraît qu'il faut se monter les uns sur les autres. Hein. Ce que je voulais exprimer simplement, c'est que il ne faut pas faire jouer au football un rôle qui n'est pas le sien. Ça, c'est la seule chose.
Mais le football, si je puis me permettre, ça reste aujourd'hui le premier sport, en tout cas en France. Je rappelle 2,2 millions de licenciés aujourd'hui. Rares sont les communes, d'ailleurs, qui n'ont pas de terrain. Véronique Anoceda, c'est une réalité, ça. Le football est partout aujourd'hui dans les foyers.
Le football est partout dans les foyers. Après, effectivement, là, je suis là aussi pour défendre d'autres espaces qui sont peut-être l'espace un peu moins dominant du football. Si je peux prendre l'exemple du ce qu'on appelle le football féminin, qu'on aimerait plutôt appeler le football joué par les femmes, on voit bien que même s'il y a une montée en puissance de la médiatisation, de l'intérêt pour le foot féminin, ça reste quelque chose de minoritaire. Enfin, de.
Et pourquoi ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? C'est le football en particulier, mais aussi d'autres sports, mais en tout cas. Le football, ça reste plébiscité quand c'est les hommes qui jouent et un peu moins quand c'est les femmes. Effectivement, on a vu en 2019 le mondial qui avait lieu en France quand même, je le précise, ça a joué. Mais pourquoi les hommes et pas les femmes ?
Parce que c'est un sport qui reste un bastion de la virilité. Je dirais même que c'est une fabrique de la virilité et que c'est un espace dont les femmes ont été exclues. D'ailleurs, il y a eu des bans en Europe. Les femmes n'ont pas pu jouer au foot pendant des décennies. Donc, c'était pas juste une vue de l'esprit. Il y avait des bans organisés contre des femmes sur le terrain de foot. Et du coup, c'est parce que justement, c'est considéré bien comme une fabrique de la virilité que tout ce qui est déviant par rapport à cette norme, et j'utilise ce mot évidemment à dessein, c'est-à-dire les femmes, mais aussi les minorités de genre, sont complètement exclues de cet espace-là.
Et du côté des supporters, Marion Fontaine, est-ce qu'il y a un portrait robot du supporter, c'est plutôt un homme, et éventuellement un portrait robot de ceux qui n'aiment pas le foot, en tout cas qui s'y intéressent pas?
C'est assez compliqué parce qu'en général, on travaille plutôt sur ceux qui aiment. Enfin, comprendre l'indifférence ou le, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme les abstentionnistes.
Mais
quoi,
le supporter, en tout cas, c'est un homme, par exemple, déjà.
C'est majoritairement un homme, même si je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pierre-Louis Bas. C'est effectivement, 1998 est une grande illusion, mais en même temps une illusion centrale. C'est-à-dire que le football prend alors une importance comme lieu de rêve, d'intégration, d'inclusion ou d'exclusion, qu'il n'avait pas auparavant. Donc, au fur et à mesure qu'il devient central, qu'il concentre des débats de société, qu'on lui demande des choses qu'il ne peut pas forcément d'ailleurs résoudre, je pense pas que ce soit au football de résoudre les questions d'intégration ou autres, le public a un petit peu changé quand même. C'est-à-dire que on voit plus de femmes aujourd'hui dans le monde des supporters que ça n'était le cas il y a 20 ou 30 ans, même si ça n'est absolument pas majoritaire et même si effectivement le football concentre aussi au fur et à mesure de sa popularisation, enfin il s'est masculinisé si j'ose dire aussi au fur et à mesure qu'il devenait populaire, il concentre aujourd'hui, si on veut véritablement un football démocratique, des questions d'égalité de genre et d'inclusion qui se posaient pas vraiment il y a 30 ou 40 ans.
C'est quand je parle d'illusion, je me permets d'insister parce que je crois que mon propos est mal peut-être interprété. Quand je parle d'illusion, c'est qu'en effet, le football n'a pas joué un rôle que la société doit jouer, et que je vous rappelle que quelques mois à peine après la victoire de 98, le Stade de France est envahi, et les difficultés avec les banlieues, bien sûr, n'avaient jamais été réglées. Et l'illusion, c'est de faire croire et d'entretenir une situation. Tant mieux pour les LGBT, tant mieux pour le football féminin. Mais je crois que c'est la société elle-même qui s'est prise en charge, et ce n'est pas quelques victoires de footballeurs qui ont pu peser, il me semble.
Non,
c'est si vrai que dans votre chapeau, qui était super moment bien fait et qui réunit bien les questions, il y a un élément qui est très important, c'est l'aspect, vous avez employé le mot, populaire. Mm-hmm. Mais le football n'est plus populaire. Et c'est parce qu'il n'est plus populaire qu'il devient...
Alors, attendez.
Il n'est plus populaire. Quand on va au Parc des Princes pour 60 euros ou 70 euros la place, quand vous savez...
Oui, non, je termine. Non, mais justement, sur le populaire, moi je voudrais justement savoir qu'est-ce que vous mettez derrière déjà ce mot de populaire.
Partage. Mais on n'est plus dans le partage.
Un
prof de gym comme fut mon papa, qui n'est plus de ce monde, voudrait regarder les matchs aujourd'hui, pourrait pas. Bein capte 15 ou 16 matchs d'entrée.
Il faut attendre
une semaine.
Je trouve qu'on est en train de partir sur énormément de sujets et énormément de débats en même temps. Sur la popularité déjà du football, je pense que le football c'est là-dessus qu'on partait, est le sport le plus populaire parce que on prend deux sacs, on les met sur un espace, un terrain vide, etc. Et tout le monde peut partager autour du football. Tout le monde peut jouer au football. Et le football aujourd'hui, c'est pas que ce qui se passe à la télé, c'est pas que les grands matchs, c'est pas que les stades. Je pense que le football rassemble aussi déjà et est populaire grâce à la simplicité de ses règles, la simplicité de jouer.
Ça n'a rien à voir entre un match spectaculaire et le match à Romorantin ou à Bernay chez moi. Quel rapport?
Justement,
en termes de moyens,
c'est le fait de s'inscrire dans le football, le fait de rentrer dans le football, le fait d'aimer le football. Et tout le monde ne l'aime pas par rapport à la médiatisation, par rapport à la financiarisation. Pour revenir sur la féminisation des tribunes et des supporters en général, je pense qu'on a plusieurs niveaux même de supporters. On a toutes les personnes qui sont intéressées à cet euro et qui ont été dans les bars et qui ont été partout faire la fête et qui peuvent être plus féminins que ce qu'on va peut-être retrouver dans les stades, parce que dans les stades on va payer sa place, on va vraiment s'engager dans ce jeu.
Par rapport à ça d'ailleurs, il y a parfois on parle un peu de certains supporters qu'on surnomme les footix. Footix c'était la mascotte de la Coupe du Monde en 98 et c'est un peu ceux qui regardent mais qui n'y connaissent rien et qui parfois d'ailleurs sont mal regardés par les puristes. Fabien Bonnet.
C'est l'illusion que disait Pierre-Louis sur 98 aussi. Ça a été toutes ces personnes qui se sont intéressées d'un seul coup au football et qui ont eu des avis sur le football à partir de ce qu'ils ont connu. Du tout. Ça enclenche des débats. Non, du tout. Après...
sur le prix, alors pardon. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Louis Bas sur aujourd'hui, aller voir un match, en tout cas une grande compétition, qui est un euro ou une Coupe du Monde de football, ça coûte combien d'ailleurs? Ça coûte très cher, mais combien?
Ça coûte très cher. Sur la dernière compétition en Russie, je crois que c'était 1500 euros de billets.
Mais
pour pouvoir suivre la compétition. Du début à la fin, sur des catégories, enfin sur la catégorie la moins chère.
Mais qui peut se permettre de payer ça aujourd'hui?
C'est une passion. Je pense qu'il y a des personnes qui vont payer des timbres x centaines d'euros à chaque fois. Enfin, c'est une passion. Des gens économisent pour vivre cette passion. Moi, j'ai vécu des émotions exceptionnelles en Russie. J'ai payé mon billet de match pour une finale assez chère. Et je regrette pas du tout 400 euros, je crois, le billet.
C'est pour ça que je vous invite justement à suivre les compétitions du foot féminin qui sont tout à fait accessibles. Nous, effectivement, 2019, c'était l'année de la Coupe du Monde en France. C'était une fête extraordinaire. plus, je pense, pour les étrangers, notamment les Américains, les Américaines qui sont venus ici en France, que pour les Françaises et les Français qui ont en partie profité aussi du spectacle et découvert aussi. Mais voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'étrangers. Et on a pu aller au stade avec, pour le match d'ouverture, nous a coûté 10 euros par personne. On a pu inviter, on était un groupe de, je pense, de 30, 40 dégommeuses, dont des personnes précaires. Voilà, donc pour moi, effectivement, alors il y a demande entre le foot que vous décriez, le foot business, et le foot des terrains qui est romantin, mais aussi Louis Lumière, c'est où on joue. Je défends quand même ce football des racines, grassroots, où il faut pas, effectivement, là aussi il y a des illusions. C'est pas parce qu'on joue sur un terrain de foot que les différences de classe, que les différences de parcours, elles vont s'effacer. Mais c'est vrai que quand même, pendant un match ou pendant la vie d'un club, comme ça peut être une association comme la nôtre, il y a des choses qui se créent, des solidarités qui se créent. Et c'est aussi, alors ça peut être le cas d'autres sports collectifs, évidemment pas que le foot, mais de fait c'est notre sport et c'est là qu'on construit des solidarités, mais je trouve, et des espaces qui sont quand même extraordinaires.
Ce monde ne s'oppose pas. J'ai fait 2018 et j'ai fait 2019. J'ai suivi la Coupe du Monde féminine en France.
C'était par rapport à l'accessibilité
rapport à la logique démocratique. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien, effectivement, c'est qu'il y a des potentialités démocratiques dans le football qui n'ont pas été exploitées jusqu'à présent, et que comme le football le football au départ n'était pas populaire. Le football, quand il arrive en France, c'est un truc de classe moyenne.
Truc de beauf, si on peut le dire.
Non, de classe moyenne. C'est plutôt un truc.
Mais est-ce que c'est considéré à une époque, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, comme un sport, j'ai lu pas mal revenir un sport de beauf, le football.
C'est un sport
qui aujourd'hui se gentrifie.
Ouais. Il suffit de regarder les lives du Monde pour bien constater d'ailleurs que les formes d'appropriation du football sont devenues plus diverses. Les rapports au football, à la démocratie ou aux classes populaires ont pu être aussi variables.
Qu'aujourd'hui, quand on aime le foot, on est cool, et quoi, quand on l'aime pas, on est un peu snob.
Loin de moi l'idée d'affirmer que le football ne serait que porteur de séparation. Au contraire, nous avons même vu dans les matchs des images. Je dis bien des images absolument extraordinaires de rapprochement entre joueurs, une forme de spontanéité qui existe. Ça n'est pas la question. La question, c'est la représentation du football aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Vous avez écrit une thèse sur Lens. C'est ça qui m'intéresse. J'aime le football. Je l'aime surtout pendant les grandes compétitions. Ce qui m'intéresse, c'est de constater qu'il y avait, et c'est tout ça est lié, il y a une massification, si vous voyez ce que je veux dire, d'un sport qui n'était pas beauf. Il était beauf pour ceux qui le méprisaient. Mais avec la pipolisation de tout, c'est devenu à la mode. Mais effectivement, fallait se planquer pour lire l'équipe. Et maintenant, on se planque plus. Mais ce qui est intéressant, c'est la représentation. Et qu'est-ce que c'est la représentation du football aujourd'hui? C'est une victoire atroce de l'image et de la télévision. C'est tout. Ça, excusez-moi, mais Eduardo Galeano, l'immense poète uruguayen, le dit il y a 40 ans. Et il aimait le football. Le football appartient aujourd'hui à la télévision, à l'univers de la télévision. Et j'ai le droit, nous avons le droit, nous qui aimons le football, de dire attention. On est dans autre chose.
Voilà. Eh bien, on va développer ça dans un instant. Pierre-Louis Basse, je vous cite un message qu'on vient de recevoir sur Twitter d'un auditeur. Je déteste le foot et je le vis très bien. Pour répondre à la question du jour, a-t-on le droit de ne pas aimer le foot? Au centre de ce débat de midi, réalisé par la fan de Lisa Razou, Valérie Ayestara, et préparé par un supporter en devenir, Adrien Nazelli, l'encyclopédie Thomas Gentil, et Clément Vuillet, qui m'a dit « je suis pas très foot », qui est à la technique. Finally made some time for me. I'm happy, I'm calm, I'm jiggy, I'm sweet. I'm chasing my dreams, you're Aggie with me. Cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my peas, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the sauce. I'm lost in the stew, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and a 100 grand and a pink. Babes, and we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I won't. Your mind.
a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up my inspiration. World domination. But I won't.
Sur France Inter, c'était I Want.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Le football. Quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football? Quelle harmonie, quelle élégance l'esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements pataux de 22 handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse un étron en haranant des râles vulgaires de bœufs éteints? Voici bientôt 4 longues semaines que les gens normaux subissent à longueur d'antenne les dégradantes contorsions manchottes des hordes encalçonnées sudoripares qui se disputent sur gazon l'honneur minuscule d'être les champions de la balle au pied. Je vous hais, footballeur. Vous ne m'avez fait vibrer qu'une fois, le jour où j'ai appris que vous aviez attrapé la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques. J'eusse aimé que les amibes vous coupassent les pattes jusqu'à la fin du tournoi. Mais Dieu n'a pas voulu. Ça ne m'a pas surpris de sa part, il est des vôtres. Il est comme vous, il est partout, tout le temps. Quoi qu'on fasse et où qu'on se planque, on ne peut y échapper.
Voilà, tout le monde ne vibre pas forcément avec le football. C'est l'objet de cette émission, ce débat de midi. Ce dont ce n'est pas le truc et dont Pierre Desproges était le porte-voix en 1986. C'était un extrait des chroniques de la haine ordinaire pendant la Coupe du Monde au Mexique. Marion Fontaine critiquait le football ouvertement aujourd'hui en 2021. Est-ce que c'est possible ?
Oui, bien sûr, c'est possible. Il y a toute une série de gens qui disent ne pas aimer le football. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, si on se place du côté du sur le plan politique, une critique politique du football est devenue, enfin par exemple sur ses excès du point de vue capitaliste, est devenue beaucoup moins fréquente que ça n'était le cas dans les années 60-70, où on a pu avoir par exemple, au moment de la Coupe du Monde en Argentine, de véritables appels à boycotter
pendant la dictature,
de véritables appels à boycotter côté la Coupe du Monde de football, et une critique d'extrême gauche, mais pas que. On a pu la retrouver, par exemple, à la même époque au sein du Parti Socialiste. Ne critiquons pas forcément le foot, mais son aspect, ses dérives capitalistes, racistes, homophobes.
Alors qu'aujourd'hui, c'est des critiques qu'on peut entendre de temps en temps dans l'année, mais dès qu'encore une fois, une grande compétition type Euro ou Coupe du Monde commence, c'est comme si, pouf, c'était une parenthèse, et d'un coup, tout le monde va bien. On voit les présidents dans les tribunes en train de lever les bras. On voit un Jacques Chirac, on se rappelle en 98 de l'image, en train de faire mine de citer les noms des joueurs qu'il ne connaît absolument pas. Pierre-Louis Basse, c'est politiquement incorrect aujourd'hui de ne pas s'intéresser au football lors de ces grandes compétitions?
Je sais pas, Camille, si politiquement correct, je sais, cette expression je la trouve assez réductrice du fait qu'on peut aimer le football et avoir la liberté quand même de critiquer une évolution qui me paraît très très inquiétante. C'est ça l'enjeu. Je veux dire, quand vous savez qu'il y a déjà 7000 mecs qui sont morts au Qatar, à qui on prend une pièce d'identité, hein, 7000, je crois que le chiffre de travailleurs immigrés pakistanais, népalais qui meurent. Il y a des excès et l'excès est vraiment déraisonnable. La difficulté, c'est que le pouvoir, en effet, économique, c'est la logique, à partir du moment où il y a de la victoire, a, en quelque sorte, défiguré un sport que nous aimions toujours. Vous aviez 10 ou 15 matchs par week-end il y a 30 ou 40 ans, vous en avez 1000 maintenant. Où est le désir? C'est-à-dire que je crains que ce sport que j'aime, c'est l'enfance, comprenez-vous? C'est l'enfance. Vous interrogiez tout à l'heure, et vous avez raison, pourquoi il y a un tel engouement? Parce que c'est simple et parce que c'est l'enfance. C'est notre enfance que nous prolongeons. Alors oui, je continue à l'aimer, mais je ne l'aime pas à travers une imposition qui défigure un sport qui doit être un événement du désir. C'est comme l'amour. Il faut du désir. Et là, c'est plus du désir, c'est un programme. C'est très différent.
Vous parlez de l'économie du foot business. Ouais. Est-ce que, Véronica, est-ce que l'argent, en fait, est à l'origine de tous les problèmes que rencontre le football? Est-ce qu'il y a que ça, ou est-ce qu'il y a des valeurs aujourd'hui? On parle beaucoup d'homophobie, on parle beaucoup du racisme, qui, en plus de l'argent, viennent évidemment poser problème.
Alors, il y a plein de choses. Je voulais réagir juste sur le fait qu'effectivement l'argent, je suis complètement d'accord avec
c'est
toi.
C'est pas seulement l'argent.
Non, mais Véronica, c'est les enjeux commerciaux. Et c'est tout ce qui est devenu ce football et les médiatisations, ce que tu as dit.
De certains clubs, on va le préciser quand même. Hein, tous les joueurs ne gagnent pas des millions aujourd'hui.
En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'en quelque part, plus le foot est devenu politique, plus on a voulu séparer. C'est ce que tu disais aussi, plus qu'on a voulu séparer la sphère footballistique de la sphère politique, en disant non mais le foot n'est pas politique, alors que très clairement le foot a toujours été politique, ça a toujours été des enjeux diplomatiques importants, des enjeux économiques extraordinairement importants, etc. Et aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que dans une espèce d'orthodoxie où on a toujours imposé aux joueurs et aux joueuses de ne pas prendre la parole publiquement parce qu'il fallait garder une neutralité, ben, il y a quand même des failles dans ce système, je trouve. C'est-à-dire, il y a des expressions plus politiques. On l'a vu avec Black Lives Matter, on l'a vu avec...
Absolument, mais ce sont les joueurs. Et pas les institutions.
Absolument.
Il a fallu qu'un joueur soit, un joueur noir, sorte du terrain.
Complètement. Hein,
et écœuré pour qu'il y ait une prise de conscience.
Je suis tout à fait d'accord.
Hein,
je voulais dire juste un truc parce que tu as fait une belle salutation à la FFF. Je trouve que la FFF est complètement responsable d'un manque, justement, de conscientisation, de prise à bras le corps, de tous ces enjeux sociaux qui traversent le foot, qui traversent la vie de ce joueur et de ce joueuse. Pour l'homophobie, enfin, je ne sais pas si on veut en parler maintenant ou après.
Justement, mais on a vu certains joueurs commencer, en tout cas, à s'engager sur certains dossiers politiques, qu'on pourrait qualifier de politiques, qui sont l'homophobie, qui sont l'exploitation notamment des Ouïghours. On a vu des joueurs arrêter des partenariats avec certains sponsors. Est-ce que c'est la Fédération française de football, les muselles quelque part? Il faut que tout le monde soit beau, tout le monde soit gentil.
La loi du silence. Enfin, là, je peux parler pour ce qui est de l'homophobie, notamment de la lesbophobie dans le foot féminin. Il y a très clairement une loi du silence, plus ou moins ouvertement, injointe aux joueuses. Mais il faut quand même pas parler. Il faut quand même se taire et sur l'orientation sexuelle. Alors qu'on sait qu'il y a des grandes figures du foot international, Megan Rapinoe notamment, mais d'autres. Et qui ont fait leur coming out, qui ont porté cette question au centre de leur pratique, y compris sportive. Mais en France, la chape de plomb, il n'y a qu'une joueuse, là récemment, la gardienne de l'équipe de France, Pauline Perromagnan, pense à lui, qui a brisé ce silence, qui pour moi est consubstantiel avec l'incapacité de la FFF de s'interroger sur l'homophobie qui est très présente.
Alors attendez,
Pierre-Louis
Basse, avant de vous laisser quand même la parole, il y a un élément qui vient, il y a l'homophobie effectivement qui peut venir, mais aussi des supporters. On entend, en ce qui concerne pour le coup l'homophobie qui touche les hommes, Fabien Bonnel, dans les tribunes, des insultes clairement homophobes, y compris en terrasse. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Alors sur les insultes homophobes, et je citerai pas le terme qui fait polémique et qui a fait polémique... Il y a pas
mais
si longtemps que ça.
Mais c'est pas un terme qui fait polémique, c'est un terme homophobe.
Non, mais on est d'accord. Enfin,
mais
non,
ça n'est qu'un reflet de la société, ce qu'il y a autour.
Non, non, enfin, clairement, si, il fait polémique. Il est homophobe, il a été désigné homophobe. Il y a, j'ai pas de doute là-dessus. Et qu'il puisse heurter les personnes homosexuelles, je le regrette, clairement. Après, moi, j'ai vécu dans une société, j'étais jeune en 98, on en reparlait tout à l'heure sur l'âge, mais j'ai vécu dans une société où certains termes, donc homophobes, considérés comme homophobes et donc qui font polémique, enfin, je les ai toujours entendus comme quelque chose d'assez naturel. Et je vais les citer, mais je suis pas là pour faire de la langue de bois sur le terme, mais pour dire que je le dis pas, juste je termine. Moi, je peux dire certains termes considérés comme cela, que je me fasse faire une queue de poisson sur la route, que je me cogne le pied contre un meuble, il y a des termes qui peuvent sortir.
C'est justement le problème, c'est justement le problème.
J'en suis
d'accord. C'est bien parce que ces termes-là sont considérés comme du folklore, de choses partagées.
Même même au-delà.
Il donne le sens de la prégnance de l'homophobie dans la société.
Marion Fontaine, à ce sujet.
Alors, à ce sujet, de manière plus générale, c'est très important ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le football est devenu, quoi qu'on fasse et quoi qu'on veuille, un réceptacle de l'ensemble des débats qui, effectivement, traversent une société. C'est pas le football seul qui est homophobe. Il reflète les tendances d'une société dans son ensemble. Mais je suis tout à fait d'accord en disant que ce qui serait bien serait que le football, et non seulement les supporters et les joueurs, mais également les institutions du football, l'assument. Après tout, le football reflète des débats de société, dans ces cas-là, qu'il les pose clairement comme des enjeux. Tout à fait, le football est un objet politique au sens très général du terme, qu'il l'assume, qu'il soit un lieu de débat et de discussion, qui permettent, non pas parce que en discutant au sein du football, on va résoudre l'ensemble des problèmes de la société. Personne ne pense sérieusement qu'on va résoudre les questions d'intégration, de crise économique ou d'homophobie en soignant le football.
C'est quand même un vecteur.
Mais en posant les questions au sein du football, on peut contribuer à éclairer certaines questions.
Le football permet le débat.
Si vous permettez, et à permettre le débat. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, Marion Fontaine, la Fédération française de football, aujourd'hui, n'a même pas voulu, en tout cas pu officiellement, venir dans ce débat. Donc Pierre-Louis Basse, qu'est-ce que ça dit?
Non mais on s'en fout de la fédération. Bah non. Jour, mais si on s'en fiche, parce que ce sont les joueurs, les acteurs qui sont... je vais vous raconter une petite histoire. Les choses se répètent. Vous connaissez Tommy Smith, le point levé. Bon, en 68, il lève son point. Qu'est-ce qui lui arrive à Tommy Smith? Il est viré. Le président du comité olympique à l'époque était un soutien de Hitler en 36, Avery Brundage. Il est viré. J'ai écrit le livre de Tommy Smith, 19 secondes, 83 centièmes, il y a une dizaine d'années. J'ai vu Tommy à Atlanta. Il a récupéré sa médaille d'or il y a 5 ans seulement. Quant à l'Australien, il a été viré également. Donc les revendications, les bagarres des femmes, des Noirs hier, des Juifs, puisqu'ils étaient écartés en 36 par Hitler en 4x100, aujourd'hui du LGBT, des pauvres, eh bien ce sont les joueurs qui portent ce combat. Ce ne sont pas les institutions.
Justement,
je termine avec un exemple. Rashford, l'anglais par exemple, la grande star anglaise, qui sait qu'il se bat pour les enfants pauvres de Camden à Londres? Ou qui sait que Griezmann se bat pour les Ouïghours? Qui sait que...
Ça commence à se savoir.
Et pour défendre la cause LGBT.
Alors justement, on va écouter un ancien joueur, un bleu, Lilian Thuram, qui était sur Mediapart en 2018, et qui disait ça. Écoutez.
Je pense qu'il faut appeler à la responsabilité des joueurs. Très souvent, par exemple, on me posait la question après le match, pourquoi vous n'êtes pas sorti du terrain? Parce qu'on a toujours l'impression que ce sont les personnes qui subissent le racisme qui doivent trouver la solution. Et moi, je dis très souvent, peut-être qu'il faut éduquer les joueurs qui ne subissent pas le racisme pour leur dire qu'en fait, c'est eux qui peuvent faire changer les choses. Aujourd'hui, si j'avais été joueur de foot, en ayant effectivement cette conscience que j'ai acquérie avec pas mal d'années, je pense que je me manifesterai assez fortement pour que le match s'arrête. Voilà.
Véronica Noceda, vous êtes d'accord avec ce que dit Lilian
Thuram? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais citer Aya Sissoko, une grande championne de boxe et une écrivaine, et une très belle figure du sport et intellectuelle française, qui disait que, en tant que sportive, ancien sportif de haut niveau, en fait, les corps de footballeurs et les corps des sportifs, ils sont considérés comme des corps laborieux et qu'on les sépare, justement, de la possibilité de prendre des positions politiques. On les infantilise. Il faut penser dans le foot. Ces gamins, ils sont pris dans des écoles. Ils sont mis devant des PlayStation, il faut jouer au foot vraiment et virtuellement, et on leur donne pas justement accès à cette possibilité qu'ils ont d'élaborer.
Ils sont tenus par les sponsors
ça va avec, c'est une docilisation des corps, c'est une disciplinisation des corps, donc il faut qu'ils restent là, il faut qu'ils fassent leur taf, parce que des millions en dépendent, et il faut surtout pas leur donner des envies de s'exprimer sur les enjeux de société.
Fabien Bonnel, vous, en tant que supporters, est-ce que aujourd'hui des joueurs qui se politiseraient, je vais mettre des guillemets autour de ça, mais en tout cas qui s'engageraient plus, que ce soit contre le racisme, contre l'homophobie ou contre d'autres dérives, est-ce qu'en tant que supporters, ça viendrait les élever un petit peu à vos yeux, ou ça viendrait casser ce qu'est le football aujourd'hui, qui est un peu cette chose lisse où il se passe rien quand c'est sur le terrain?
Non, je pense que ça les élève, et je pense que justement on a pu critiquer assez des joueurs qui ne réfléchissent pas et qui ne prennent pas position, pour aujourd'hui s'offusquer que des joueurs puissent prendre position pour des causes, et des causes, je pense que tout le monde peut défendre. C'est défendre des valeurs, défendre des libertés.
Mais vous avez vu la polémique que ça a fait là pendant l'Euro, quand ils ont annoncé qu'ils allaient se mettre à genoux, justement pour notamment protester contre les violences policières et le racisme. Finalement, ils l'ont pas fait. Ça a fait tout un buzz. On en a parlé toute une journée. C'est pourquoi?
Est-ce que
ça a été fait par les Belges à Lukaku?
Oui, mais je parlais des Français qui étaient censés le faire. On en a parlé
c'est
toute
lent,
la journée avant le match.
C'est lent, mais ça change. Je trouve, moi, je ne sais pas si vous observez certainement mieux que nous, avec votre thèse sur Lens, l'évolution sur les 50 ou 60 dernières années en termes de représentation, de nouveau, alors qu'ils étaient devenus des produits, bien souvent, il y a individuellement des joueurs qui, d'une certaine façon, prennent le pouvoir. Je répète que vous sortiez d'un terrain, vous étiez sanctionné, y compris par l'UEFA. L'UEFA a été obligée de plier et de reconnaître. Donc les choses sont lentes.
Mais l'UEFA, elle est là, l'UEFA, la solution. Elle refuse est... encore, l'UEFA a refusé encore, par exemple, que le stade de
Budapest soit éclairé. C'est assez lent.
Les institutions sont sans doute plus conservatrices. L'UEFA et la Fédération française de football sont peut-être en retard sur ce qui se passe effectivement sur les terrains. Bon, je pense qu'il y a aussi une question de formation des joueurs. C'est-à-dire que tant que dans les centres de formation, etc., on ne leur dit pas qu'ils sont destinés à être des professionnels complets, donc pas simplement des bons footballeurs techniquement et physiquement, mais également qu'ils ont des devoirs et ils ont une fonction de représentation, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille.
Qui se font. Moi, je veux saluer le travail, par exemple, de Adjovi Boko, ancien Lensois, Jimmy Adjovi Boko, qui a créé avec Bernard Lama et d'autres l'académie du football à Sali au Sénégal, qui s'est implantée un peu partout en Afrique. Et sa devise étant le sport, oui, mais l'humanité aussi. Eh bien, il y a des efforts, il y a des choses. Ils étaient plusieurs à créer cette académie qui fonctionne. C'est très complexe.
Fabien Bonnel, un message de Frédéric sur par mail sur la page du débat de midi. Ancien passionné de foot, je suis devenu totalement insensible à ce phénomène depuis que j'ai travaillé dans ce milieu pendant plus d'une décennie. J'ai rencontré des gens imbuvables, impus de leur personne, pensant sauver des vies humaines, bref, se prenant pour ce qu'ils ne sont pas. De plus, un vrai panier de crabes, et ça à n'importe quel niveau de l'organigramme du club.
Moi, je l'ai fait pendant 6 mois. J'ai travaillé pendant 6 mois dans le milieu du football et je suis content de pas y aller et depuis de pas y travailler. Donc voilà, je comprends. Et encore 10 ans, il a eu du courage d'y tenir. Moi, je voulais revenir sur le genou au sol, sur cette polémique Black Lives Matter. Et je rejoins plus ce que disait Lilian Thuram sur la prise de conscience de tout le monde, de tous les acteurs, blancs, noirs, ceux qui sont touchés par le racisme ou ceux qui sont touchés parce que leur ami, leur joueur, leur collègue est touché par le racisme. Et je préfère revoir justement des joueurs qui prennent conscience de ça et qui sortent tous et qui sont tous solidaires au moment où un acte le fait, plutôt que des fois de voir des joueurs aller vers leurs copains et leur dire non, c'est pas grave, t'inquiète pas,
par exemple,
plutôt qu'un genou à terre.
Est-ce que vous seriez pour vous, en tant que porte-parole des Irrésistibles Français, donc qui est une grosse association de supporters, est-ce que vous seriez prêt à suivre la France si elle décidait de boycotter, par exemple, la Coupe du Monde au Qatar?
Moi, en tant que porte-parole, pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans les débats et en plus, on n'est pas qualifié.
Mais oui, c'est une question qui se pose. Mais
moi, pour l'instant,
boycotter.
Par rapport à tout ce qui peut se passer au Qatar, on a commencé à l'évoquer. Moi, personnellement, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas parce que on parle de politique et de football et du rôle du football dans tout ce qui est social, dans toute l'évolution sociale de la société. Et on essaye, en tout cas tous les acteurs et surtout les supporters, de distinguer quand même la politique et le football. Parce que longtemps, beaucoup ont essayé d'introduire la politique dans les tribunes, dans le football. Et tout le monde est soucieux justement de distinguer les deux mondes.
Oui, mais pardon, répondez à ma question. Si la France boycotte, est-ce que les supporters suivent ?
J'y arrive. Par contre, à partir du moment où la politique et le football se rejoignent, comme ce qui se passe au Qatar, comme le fait qu'il y ait des morts pour construire des stades de football, comme le fait qu'il y ait des stades ouverts à tout vent et qui en plus sont climatisés, donc une polémique environnementale conséquente, énorme. Moi, pour ces aspects-là, à partir du moment où les deux mondes se rejoignent, pour cela, je n'irai pas faire la fête, en tout cas à l'endroit où des ouvriers sont morts. Et donc, ma position personnelle, c'est ça. Inciter des gens à y aller ou à ne pas y aller, aujourd'hui, c'est pas forcément mon rôle et notre rôle.
Oui, mais ma question, c'est si les Bleus, sait-on jamais, boycottent, qu'est-ce que les supporters vont en penser?
Mais moi, je boycotte aussi.
Donc vous les soutiendrez?
Moi, je le boycotte aussi, donc personnellement, oui, je les soutiens.
Marion Fontaine, ça peut être envisageable qu'un pays comme la France annonce comme la Norvège?
Non, c'est-à-dire que si en 1978, et là, on était dans des cas gravissimes où des gens étaient exécutés, dans des stades à côté, et à côté on joue au foot.
Donc
on est un cas. Et il y a eu beaucoup de débats, y compris au sein de l'équipe de France, enfin au moins de la part de Dominique Rocheteau, etc., pour savoir si la France devait y aller ou pas. Et malgré les appels au boycott, malgré etc., l'équipe de France y est allée. Je pense qu'aujourd'hui le football a acquis une telle importance politique et économique que je ne vois pas, si jamais l'équipe de France était qualifiée, enfin la Norvège peut aussi, parce que c'est la configuration sportive et footballistique n'est pas la même. Je pense qu'aujourd'hui, enfin j'en sais rien, mais si jamais l'équipe de France est qualifiée, elle ira. Mais c'est une question qui mériterait d'être amplifiée, débattue. Si on a pu le débattre en 1978, je pense que ce serait au moins intéressant que ce soit débattu, même si je pense que là, les enjeux économiques, par ailleurs, et de carrière et de réputation sont tels qu'ils pèseront hélas bien peu par rapport effectivement aux problèmes environnementaux, et c'est une litote, de droits sociaux que pose le Qatar. Mais enfin, pour résumer, c'était déjà, ça ne s'est pas fait en 98. Il y a peu de chances pour que ça se fasse en 2022, mais c'est dommage.
Allez, chères auditrices, chers auditeurs, moi j'attends toujours vos messages et vos réactions sur l'application France Inter et sur Twitter avec le mot-clé « débat de midi ».
Rien à foutre d'être dans le coup. Je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines. Laissez les gens parler dans le fond. Gars, laisse-moi là dans le flou. Tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent. J'ai de l'or dans mon moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères. Qui choisit son temps. À refaire, je serais plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, qui s'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les parias, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks, 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 freaks. As-tu vu mes écailles? Quand je nage dans les rues, as-tu vu mes écorces là, qui me protègent à mon insu? Vu sentir mes balafres contre les casses, toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre, moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free.
Freaks, c'était Eddy De Pretto et Valentine Chedebois pour la programmation musicale.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
J'aime pas le foot, c'est grave. Thème de ce débat, avec un point d'interrogation évidemment, le thème de ce débat de midi avec mes invités, le journaliste Pierre-Louis Basse, le supporter Fabien Bonnel. L'ancien journaliste écrivain Pierre-Louis Basse d'Europe 1. Le supporter Fabien Bonnel, l'historienne Marion Fontaine et la joueuse Véronica.
Je joue plus vraiment, mais.
Non, c'est d'accord. Bon, d'accord.
Je ne vois plus ce
terme. Moi, je reste supporter.
Et moi, je suis toujours historienne. Bon, ça va. Je m'en sors à peu près. Solidarité, fraternité, égalité, des valeurs quand même qui sont aussi prônées par le football et par le sport en général. D'ailleurs, j'ai, malgré quelques messages assez virulents, des messages un petit peu positifs, j'essaie juste de retrouver. Voilà, Christophe qui nous écrit « Le vrai football se joue le dimanche sur les terrains amateurs avec et contre ses amis, loin des fanatismes et du marketing qui pollue les tribunes des matchs pro. Le match pro sur nos messages d'auditeurs s'en prend plein la figure. » Pierre-Louis Basse, vous nous parliez tout à l'heure des réalisations, notamment à la télévision, qui ont changé. On rappelle que le foot, c'est un des sports les plus regardés à la télévision avec les Jeux Olympiques et le Tour de France. Ça veut dire quoi, ce changement dans la réalisation? C'est une façon de réussir à attirer un peu plus les
spectateurs? Non, mais c'est surtout la captation économique qui est absolument, les réactions, elles expriment en définitive tout cela. Moi, le football, je l'aime, ça va, à petite dose, 4-5 fois par an. Non, c'est pas honteux de pas l'aimer, mais je l'aime, c'est l'enfance, il peut y avoir de très grands moments, de très beaux matchs, on pourra en parler, malgré la globalisation, malgré l'uniformisation. Mais moi, ce qui me révulse, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure sur l'affaire Béhing, c'est que ce football, qui est un football, on parlait de populaire, doit être partagé par le plus grand nombre, que le service public soit, enfin, le tennis aussi maintenant, sur Amazon, pour se lever la nuit pour voir un match de Roland-Garros. Mais enfin, ce sont des questions fondamentales sur la massification et sur la globalisation. La massification, pour moi, tue le désir. Trop d'événements, c'est forcément aller vers une espèce de banalisation et un programme. Mais pour ce qui est de l'économie, enfin, c'est absolument scandaleux. Voilà une compétition qui réunit des nations, des États qui explosent.
Certains veulent des Coupes du Monde tous les deux ans.
Mais ça, c'est pas nouveau, bien sûr.
Non, mais c'est rentré dans ce système.
Là, pendant la Covid, de jouer à la baballe entre les sept. Pour l'instant, ça a échoué. Mais on envoie des poissons pilotes. Et vous avez tout à fait raison, Blatter rêvait, et Berlusconi aussi, d'une compétition tous les deux ans. Alors que le charme, c'est que ça revient tous les quatre ans. C'est ça le désir.
Tout à fait.
Donc voilà mon analyse. Si on prend des distances, ceux qui ont aimé le football, c'est tout simplement parce que le gavage, ça suffit. Mettez-nous des théâtres du théâtre de Brecht à 8h, vous verrez que les gens regarderont. Il y avait un formidable rapport de Catherine Clément, la philosophe, il y a 20 ou 25 ans, disant que la culture, plus elle était haute dans la soirée et plus on la regardait. Mettant un peu plus de culture.
Un message d'Olivia par mail. Les médias nous matraquent cette obligation de suivre ces grandes compétitions et fabriquent ce désir collectif. Moi, je voudrais revenir sur 98, la fameuse France black, blanc, beurre. Écoutez ce qu'en disait l'anthropologue Marc Auger. Donc, en 98, c'était quelques mois après la victoire des Bleus, qui avait suscité une communion quasi jamais vue.
Je ne crois pas que ça soit la marque d'une espèce de transformation qui ferait de toute la France un ensemble harmonieux, non raciste, épris de fraternité et d'égalité sociale. Ça serait évidemment abusif et naïf de dire cela, mais il y a quelque chose dans la représentation de la société qui a pu un instant se déplacer légèrement. Et comme référence, je pense que ça existera.
Marion Fontaine, que reste-t-il aujourd'hui de la France black, blanc, beurre?
Je vais reprendre la terminologie de Pierre-Louis Basse. Un moment d'illusion, mais il y a de très belles illusions. Un moment de communion. Un moment aussi où on a vu, j'y reviens, que le football pouvait occuper la place et devenir en lui-même un événement politique collectif. C'est la première fois dans l'histoire, parce qu'il y a eu d'autres victoires. Enfin, si on avait dû célébrer toutes les victoires sportives de la même manière dans ce pays depuis un siècle, ça n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire que comme si à un moment où un certain nombre d'identités territoriales, d'identités politiques, de formes de vie collective sont en crise, le football devenait une espèce de lieu de refuge où se refait du collectif. C'est en sens qu'il s'est passé quelque chose en 1998. Enfin, ce qui s'est passé, les 1 million de personnes dans la rue, ça veut dire quelque chose. Le problème, je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut que le football assume cette capacité à à créer aussi bien des illusions que des vérités, des formes de solidarité collective, et donc que s'il est capable de le faire, il en est aussi responsable, et donc que ça, les enjeux de démocratisation et d'émancipation deviennent d'autant plus forts. Véronique... 1998, en ce sens, c'est une illusion, mais aussi une exigence.
Véronique Anoceda, vous, avec votre association Les Dégommeuses, qui luttait pour essayer de changer les choses dans le foot et par le foot, comme vous le disiez, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour que les choses évoluent, continuent d'évoluer dans le bon sens et pour réconcilier peut-être des gens qui détestent le foot, on a énormément de messages aujourd'hui, avec ceux qui aiment et avec ce sport à la base?
Je pense que c'est recréer des espaces de liberté, des interstices et faire du foot, bien sûr, un outil d'émancipation pour des femmes, notamment des lesbiennes exilées, qui ont été exclues de ce domaine, de pouvoir s'affirmer sur ce terrain-là. Donc ça, c'est une première chose, mais aussi utiliser la popularité du foot pour en faire un outil un peu éducatif. Je voulais, par exemple, raconter une petite action qu'on a faite l'année dernière, donc on organise tous les ans avec la mairie du 20e et d'autres associations, un tournoi intergénérationnel et mixte avec garçons-filles. En gros, c'est surtout des enfants et des jeunes adultes qui jouent ensemble. Et à côté, on a proposé un atelier flocage. Donc, il y avait les t-shirts et on a mis à disposition des fiches de grandes sportives, mais aussi de grandes figures du féminisme pour que les enfants, donc filles et garçons, nous, ça nous intéresse surtout les garçons, en fait, qui puissent regarder ça et qui puissent, du coup, s'approprier, choisir et qui partent avec leur t-shirt floqué Serena Williams ou Megan Rapinoe ou etc. C'est-à-dire que pour nous c'était important. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que femmes et en tant que lesbiennes, on a toujours dû se décentrer pour s'identifier à des modèles qui étaient des modèles masculins.
Modèles,
moi, dans mon enfance, c'est vrai qu'au niveau du foot, c'était Paolo Rossi, c'était Tardelli, c'était Badge un peu plus tard. Enfin, c'était et c'est vrai que je pense à ces souvenirs de cours d'école où je voulais rentrer dans cet espace-là aussi parce que je le savais pas encore, mais je deviendrais lesbienne. Et du coup, j'étais attirée par cet espace parce que je savais que j'allais quelque part transgresser la norme de genre. C'était un savoir inconscient, évidemment. Mais voilà. Je peux raconter aussi l'anecdote où j'étais le dimanche après-midi, j'allais dans ce stade de province. Alors, il y avait ces grands modèles, ces grands foot, et puis la réalité, c'était un triste stade de province en Suisse, parce que je suis suisse italienne, et j'avais la possibilité, grâce à mon oncle qui était dirigeant de ce club local, piètre niveau de jeu, d'aller avec mes cousines sur les gradins. Et là aussi, j'ai senti que j'avais accès à cet espace dont j'étais exclue. Et je le sentais comme un privilège, mais c'était un privilège que les hommes m'accordaient. Alors qu'aujourd'hui, nous, en tant que dégommeuses, on n'attend pas que les hommes nous disent « vous pouvez être là ». On est là et on est présente et on est visible.
Pierre-Louis Basse.
Non, je voudrais simplement ajouter, parce que pas donner l'impression que je ne serais que critique, il se passe toujours quelque chose à un moment ou à un autre. Quand on aime le football, je parlais de l'enfance, et c'est quand il se passe quelque chose dans un stade, ou en tout cas devant le jeu. Parlons un peu du jeu. Parce qu'il peut se passer quelque chose. Et alors là, vous êtes touché par la grâce. Quand le match dure, quand il y a des oppositions. Vous savez, j'ai découvert à 5-6 ans la couleur de la pelouse et les tribunes du stade Marcel Sopin à l'époque à Nantes. Je suis nantais et un jour, un homme qui savait que j'aimais le foot m'emmène, mon papa, et je découvre à l'âge de 6-7 ans ces couleurs que De Staël voulait représenter après le match France-Suède en 56, le peintre. C'est ça aussi le football, il faut le... Voilà,
et justement,
il peut se passer quelque
Fabien
chose.
Bonnel, est-ce que vous pouvez nous dire, à ceux qui nous écoutent d'ailleurs et qui n'aiment pas forcément le foot, alors on ne va pas essayer de les convaincre ou de les convertir, mais ça vous fait quoi, vous, quand vous regardez un match
Je pense que les personnes qui n'aiment pas le foot devraient regarder le France-Brésil de 2006 et la prestation de Zinedine Zidane.
Dites-nous ce que ça vous fait, vous, intérieurement. Racontez-moi comment vous vous sentez rapidement.
Le football, pour moi, c'est de l'émotion. C'est purement que de l'émotion. Et c'est de l'émotion encore plus exaltée quand elle est vécue en communauté avec mes amis autour. Et vivre ça tous ensemble autour du football, vivre cette tension sur le football. Et en fait, le football est beau aussi parce que le but est rare dans le football. Et à partir du moment où le but arrive, c'est des moments de liesse.
Mais il ne doit pas nous empêcher, cher ami, de réfléchir et éventuellement d'être très critique.
Mais évidemment.
Car si il n'est qu'émotion, ça se termine par le Wesel.
avec plus de 60 membres dans les tribunes.
Totalement.
Et, pour... et les joueurs
on
qui continuent à jouer.
On va essayer, Pierre-Louis Basse, de finir sur une note positive.
Mais c'est ce que j'ai dit. Je dis simplement à chaque fois, attention, restons.
Totalement.
Restons raisonnables.
Les amoureux du football doivent en voir ses dérives, doivent pouvoir le critiquer, doivent savoir le critiquer.
On est d'accord.
Et on en parlait sur la médiatisation, des matchs à 13h le dimanche ou à 20h le vendredi, ça ne participe pas à la popularisation du football.
Allez, comme tous les jours, et avant de se quitter, mini débat du jour. Aujourd'hui, question un peu simpliste, mais qui marche.
Je vais venir.
Mbappé ou Zidane, Marion Fontaine.
Oh, Zidane, mais c'est un effet de génération.
Fabien Bonnel.
Je viens de le dire, je me suis trahi, mais Zidane, parce que j'ai vécu ce match en 2006.
Pierre-Louis Basse.
Zizou au milieu et Mbappé devant.
Et Véronique Anoceda.
Et Johnny Le Sommer.
Eh bien, sur Twitter, je suis désolée, j'ai mis que Mbappé ou Zidane comme choix. C'est Zidane qui écrase Mbappé. Il a 80,6% oui. des voix. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été là. Pierre-Louis Basse, votre livre « Gagner à en mourir » paru chez Robert Laffont,
il
je
date,
le rappelle.
Hein, 2012.
Oui, mais il est toujours disponible. Véronique Anoceda pour les dégommeuses. Marion Fontaine avec votre livre « Le Racing Club de Lens » et les gueules noires, et Fabien Bonnel avec donc les irrésistibles français. Un petit prono pour dimanche, Italie-Angleterre.
Italie.
Italie.
Je pense que l'Italie gagnera.
Italie.
Allez, c'est l'Italie. À lundi et bon week-end les amis.